Les grandes gueules sur RMC avec Iscox.
Is quoi ?
Iscox.
Is qui ?
Iscox, l'assureur des TPE et des indépendants.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous. Et rendez-vous au 32-16 pour discuter, pour débattre. Vous connaissez le mode d'emploi des GG, des grandes gueules. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, on a 3 heures à passer en revue les sujets de société, sujets d'actualité qui font notre pays, bien sûr. Et alors aujourd'hui, on va le faire, nous allons le faire, les grandes gueules, avec Emmanuel Devilliers, chef d'entreprise. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Alain.
Nous sommes avec Barbara Lefebvre, professeure d'histoire-géographie. Bonjour ma chère Barbara.
Bonjour à tous.
Et puis Étienne Liebig est notre éducateur en Seine-Saint-Denis.
Je peux passer un petit message?
Mais avec plaisir.
Je passe un petit message parce qu'il y avait un papier dans le Parisien sur le gaz hilarant, le protoxyde.
Mais c'est aujourd'hui, oui.
Effectivement, parce que ça se développe d'une façon incroyable et c'est pas une drogue anodine. Elle présente des dangers. Elle présente aussi, on peut être accro. Et donc, c'est vraiment... Parce que j'ai l'impression que c'est... Comme c'est du gaz hilarant, ça fait rigoler.
Protoxyde d'azote.
Ça dure 10 secondes. On a l'impression que c'est rien. Mais en fait, c'est pas rien. On se met quand même dans le corps et dans le sang.
Dans le genre, tu as l'hélium aussi, si on prend
l'hélium. Oui, c'est le même. Mais c'est pareil. C'est le même état.
C'est étonnant, d'ailleurs, parce que c'est l'impression que ça m'a donné à la convention de Chicago. La convention démocrate, j'avais l'impression qu'ils étaient tous sous gaz hilarant. Tu vois ? Tac, t'as raison. C'est peut-être encore un phénomène qui nous vient des États-Unis.
Non.
Justement, cette convention, on l'a mise dans le « on s'enfonce », on s'enfonce pas tout à l'heure.
C'est peut-être ça.
De quoi, mais tu as raison, Étienne, faut pas plaisanter avec ça. Ouais. D'autant que il y a de plus en plus de gens qui postent des vidéos sur les réseaux sociaux où ils rigolent avec la voix cassée et puis des fois ils essaient de la garder le plus longtemps, ce gaz hilarant, ce protoxyde d'azote. Et c'est un vrai danger, je vous conseille, Étienne a raison, l'article aujourd'hui, la double page dans Aujourd'hui en France, le Parisien. De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules, de cette femme qui veut une PMA post-mortem, être enfantée alors que son mari est décédé, c'est interdit en France. Est-ce qu'il faut aujourd'hui que la loi évolue? On l'évoquera tout à l'heure à 11h-20, on doit s'attaquer à l'argent de la drogue dans les cités, parce que c'est bien beau de taper les points de deal, d'arrêter les revendeurs, d'arrêter les caïds, mais il y a tous ceux qui profitent de cet argent et qui sont des complices. C'est le coup de gueule d'un préfet, d'un ancien patron de la police judiciaire. On voit un peu trop de commerce s'ouvrir dans les cités et tout ce beau monde profite de cet argent liquide qu'il y a à foison. 32-16 pour venir en parler tout à l'heure à 10h dans les GG. Mais d'abord, si on parlait un peu politique.
RMC, les grandes gueules.
Oui, parce que c'est le rendez-vous ce matin pour le président de la République avec le nouveau Front Populaire. Emmanuel Macron est rentré de Brégançon. Il est temps maintenant de passer à la formation d'un gouvernement pour le futur Premier ministre. Encore faudrait-il qu'il soit nommé. Donc ce matin, c'est le nouveau Front Populaire avec ses composantes LFI, PS, PC et écologistes qui a rendez-vous hier au coup d'envoi des journées d'Europe Écologie Les Verts. D'ailleurs, Madame Lucie Castet, potentiel premier ministrable, donner le ton.
Avec les chefs de parti du Nouveau Front Populaire et les présidents de groupes parlementaires, nous nous rendrons à l'Élysée. Nous rappellerons au président son devoir de respecter le choix des Français, de désigner une première ministre en phase avec la volonté populaire.
Voilà, c'est simple. Le NFP ne cesse de le dire, de le marteler. Nous n'avons pas de majorité absolue, mais nous sommes arrivés en tête des élections législatives. Donc, Emmanuel Macron doit respecter la volonté des Français. Or, on sait que le chef de l'État a une autre stratégie en tête. Il voudrait refaire une coalition centre-gauche, centre-droit, qui pour la remener, ça on verra qui sortira du chapeau, de façon à ce que le macronisme, de façon à ce que sa politique continue. Politique qui, pourtant, a été désavouée par les Français, que ce soit aux dernières élections européennes ou aux élections législatives. Alors, est-ce qu'effectivement c'est le choix des Français? Rien que le choix des Français et donc le NFP. 32-16 pour le dire au GG, dire au grand gueule, Étienne.
Tu sais, dans ces cas-là, il n'y a pas de choix idéal. Si tu veux, on voit bien que, d'abord, il n'y a pas de choix idéal sur le plan idéologique, puisqu'on voit bien que personne n'a une majorité absolue. Tout le monde est dans les majorités. Il y a une majorité relative. Ensuite, il n'y a pas non plus une personnalité comme ça qui s'impose, qui serait évidente, qui transcenderait les appartenances politiques. Donc en fait, moi je pense très sincèrement que il faut aller au plus simple, c'est-à-dire que le NFP a eu la majorité. Elle a eu la majorité des sièges par rapport aux autres. Madame Castex semble quelqu'un qui n'est pas une dingo idéologique qui va.
Vu de ton point de vue.
non, mais moi je pense que c'est quelqu'un qui, de toute façon, quelle que soit la personne qui sera nommée, elle devra de toute façon ne travailler que par le compromis.
D'ailleurs, ils l'ont dit. Nous saurons trouver des accords.
Pense que dans un cas comme dans l'autre, si la personne qui vient comme Premier ministre n'est pas quelqu'un qui est prêt à discuter, à échanger et essayer de trouver une solution commune en tenant compte de tous les autres, il se cassera la gueule. Donc, autant faire le plus logique possible. Madame Castex, moi, me paraît être quelqu'un de tout à fait raisonnable.
Emmanuel.
Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Étienne, parce qu'ils n'ont pas la majorité. Ils ne sont même pas majoritaires en nombre de partis à l'Assemblée. Il y a une dizaine de partis, ils représentent 4 partis. Et justement, c'est un millefeuille, encore une fois, on répète toujours la même chose depuis le 7 juillet. C'est un millefeuille de formation politique. Ils ne sont pas d'accord entre eux, on le voit, puisque LFI demande la destitution du président, le PS s'en dissocie. Non, c'est une visite qui va tourner au jus de boudin. Dans le même temps, le président s'est lancé lui-même dans une partie d'échec où il est évidemment en grande difficulté. On arrive un peu à la situation d'échec au roi. Et dans son propre camp, de plus en plus des gens qu'il a mis en place, qui lui doivent tout, d'une certaine manière, commencent, passez-moi l'expression, à lui chier dans les bottes. Non, la situation est critique et ça va continuer à empirer. On va tirer des bords jusqu'aux Jeux paralympiques. Il n'y aura pas de nomination, à mon sens, avant les Jeux paralympiques. Et on se retrouvera peu ou prou jusque dans un mois dans le même marigot.
Il y a les Jeux paralympiques et ensuite le président de la République part 2 jours en voyage officiel en Serbie. Mais du côté de l'Élysée, on dit qu'on pourrait quand même sortir un nom en milieu de semaine.
Du côté de l'Élysée, du côté de chez Swan aussi. Et on attend, comme l'a dit sympathiquement Étienne, le compromis.
Oui, mais sauf que les Français, ils en ont un peu assez, quoi. Si je veux le... Parce qu'on dit, non, mais vous savez, les Français sont en vacances, ils ont autre chose en tête. Bah, moi, je sais pas, mais quand j'en discute autour de moi, je vois que les gens en ont ras-le-bol. Aimeraient bien voir un pays qui soit en ordre de marche, qui fonctionne avec un choix qui soit fait, mais qu'on dise simplement, voilà, on a un Premier ministre, voilà, on a un gouvernement, voilà ce que l'on veut faire. Après, il tombe ou il tombe pas. Et puis, on nous a fait voter. On nous a demandé aussi, pour certains, de nous désister. Maintenant à la suite logique des événements. Quoi.
D'un mot, au retour de vacances, les Français sont déjà sur les rotules.
Si tu veux, que
le problème, c'est toujours pareil, c'est le mystère de ce qui est dans la tête d'Emmanuel Macron. Parce que même on l'entend à travers les analyses des journalistes politiques, et pourtant les journalistes politiques ont leur petit réseau, leur canaux d'information qui leur remontent, etc. Et on sent bien que là, Emmanuel Macron est tellement isolé, puisqu'effectivement, comme l'a dit Emmanuel, des gens qui jusque-là ont été très loyaux, d'ailleurs ils lui doivent tout, mais maintenant ils en ont soupé à la fois des lubies d'Emmanuel Macron, de ses décisions intempestives sur lesquelles il ne consulte personne, et celle de la dissolution, comme il s'est avéré quand même que ça a été un échec pour lui, a mis son propre camp contre lui. Maintenant, Monsieur Macron, le problème du nouveau Front populaire, c'est que c'est uniquement une union électoraliste. C'était uniquement pour avoir un bloc important et faire le barrage des castors, mais ce n'est absolument pas une union politique. Donc quand Madame Castex dit on fera des compromis, bah déjà qu'ils arrivent à faire des compromis entre eux, ce sera déjà beau. Parce que avant qu'elle aille réussir à aller convaincre des macronistes et des LR de voter ses projets, faudrait déjà qu'au sein même du NFP, ils soient tous d'accord, ce qui est loin d'être le cas. Deuxièmement,
T'en sais rien.
Oui, bah, ça se voit déjà. Sur un certain nombre de sujets, je pense que ils se sont tous mis un mouchoir dessus au moment de former ce Front populaire, mais ça ne veut rien dire.
Que Barbara finisse, vas-y.
Mais quand Madame Castex est enfin été désignée par ce conglomérat de... Voilà, je ne sais même plus la date lorsque son nom a émergé, on était dans la deuxième quinzaine de juillet, je crois. Ce que M. Macron aurait pu faire, bon, même si, je comprends, il était tout absorbé par ces Jeux Olympiques, mais il aurait pu lui dire, bah, écoutez madame, bon, institutionnellement, votre machin, là, Nouveau Front Populaire, oui, vous avez 181 sièges, bon, vous n'avez pas de majorité, bah, vous savez quoi, je vous donne jusqu'à la fin des Jeux Olympiques, à la fin des JO, vous me montrez où elle est votre majorité, qu'est-ce que vous avez fait pendant 3 semaines pour aller me la chercher, cette majorité, Vous me démontrez donc que si je vous nomme, vous êtes capable de gouverner et on va pas partir dans un grand n'importe quoi pour avoir une motion de censure au mois de septembre, puisque ce n'est pas le but, puisque c'est ce que nous avait dit Macron. Je dis sous pour pas qu'il y ait une motion de censure en octobre. Donc c'est donc pas pour aller nous mettre un gouvernement qui va se prendre une motion de censure dans la tronche au bout de 5 minutes. Ou sinon, il y a plus du tout de logique. Mais ce qui, encore une fois, me fait dire que effectivement, avec Emmanuel Macron, c'est dur de suivre. Mais la logique politique et institutionnelle, c'était de lui dire, et même dans l'esprit de toutes ces coalitions européennes, puisque c'est le grand rêve de Macron, ben lui dire, voilà, banco, Madame Casté, vous avez mis du temps à être désignée. On se revoit, justement, là, en ce moment, entre les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Oui, et d'ici là, vous avez travaillé, vous m'avez montré où sont vos projets et comment vos projets vont réussir à avoir cette majorité.
On peut pas mettre en place un gouvernement. C'est très grave de mettre en place un gouvernement. Ce sont des ministres qui après se proclament anciens ministres à vie. Le président Mobutu avait une formule, paraît-il, assez extravagante. Je ferai de vous un ancien ministre. Non, tout ça n'est pas sérieux. Il est évident que Mme Casté n'a aucune prétention légitime à être nommée Premier ministre. La rencontre de ce matin va tourner au jus de boudin, voire au claquement de porte. On a perdu beaucoup de temps, mais ça va continuer.
Mais on perd du temps aussi à cause d'Emmanuel Macron.
Je trouve un peu méprisant quand même.
Il y a quand même des gens qui ont.
Des gens qui ont été élus, qui ont un programme.
Moi, je n'ai pas été méprisant.
Tout le monde pensait, après le premier tour, que les choses étaient jouées. À ce moment-là, il y a des Français qui se sont réveillés, qui ne sont pas moins valeureux que d'autres Français, c'est-à-dire à peu près quand on est citoyen français, on est tous égaux, me semble-t-il encore. Donc ces gens-là sont tout à fait respectables. Ils ont dit non, on veut plus de Macron et on veut pas du RN. On vote pour cette union de la gauche, qui était inespérée et dont vous moquiez déjà en disant c'est impossible, au bout de 3 jours ils vont se taper sur la gueule, etc. Ils ont fait un programme, ils ont proposé un programme, ils ont proposé un Premier ministre. Alors, bien sûr, il y a des désaccords, mais dans quel parti il n'y a pas de désaccord? C'est certainement pas la droite qui va nous donner des leçons d'accord, parce qu'ils se sont toujours tirés dans les pattes dans l'histoire depuis De Gaulle.
On a vu ce qui s'est passé avec Ciotti.
Donc, on n'a pas de leçons à recevoir de la droite sur ce sujet-là. Et donc,
c'est vrai que la gauche,
la gauche s'est toujours tapée sur la gueule idéologiquement, comme la droite. Mais sauf que nous, on ferme notre gueule, on donne pas de leçons. Vous êtes là en train de donner des leçons de politique, alors que vous êtes incapable d'avoir une seule ligne politique plus de 6 mois, avec des Ciotti qui courent à droite, avec des Vauquier, avec bon. Alors ça va, calmez-vous.
Parce que toi, tu trouves que la gauche,
elle a fait ce que vous étiez incapable de
la
faire.
La gauche ne donne jamais ni de leçon de morale.
Commun. Elle a présenté un programme commun et elle a présenté, il était budgétisé. Alors on peut ne pas être d'accord avec, et c'est tout à fait correct de ne pas être d'accord
avec. Les dépenses ont été budgétées, les recettes c'est moins
sûr. Je vois pas pourquoi aujourd'hui on déciderait qu'il y a des bons Français, dont d'ailleurs ils ont sauvé leur tête très souvent chez les élus de droite parce qu'il y a eu les désistements de la gauche. Donc et d'un seul coup on déciderait que c'est des mauvais citoyens, ils ne méritent pas d'être entendus parce qu'ils sont pas, attends, je termine, parce qu'ils ne sont pas raisonnables. Mais moi je te dis, la politique raisonnable de monsieur Macron, on l'a vu à l'œuvre. Voilà, est-ce que vraiment c'est une réussite?
Non, mais le cercle
à 100%
de la raison version Macron m'intéresse pas. Non, maintenant je vois pas en quoi ce que j'ai dit était méprisant ou hostile à Madame Casté. Au contraire, je pense que Macron aurait dû lui dire.
Il aurait dû lever l'option
travailler pendant 3 mois, pendant 3 semaines. Pour me montrer, non pas seulement faire des déclarations, nous saurons trouver des accords.
Le gouvernement de la France, c'est pas le CNRS, on peut pas faire des expériences en bouillon de culture, c'est quand même très grave.
Et seulement là, je vous nommerai Premier ministre. Oui, mais dans les autres pays européens où se font des coalitions, c'est comme ça se passe. On reçoit.
Pas 3 semaines.
Le président reçoit. Et des fois, c'est plus que 3 semaines. Des fois, c'est trois mois, bien sûr. Pour réussir à faire une coalition. Et le gouvernement
C'est-à-dire que ça, là, on vazouille, on a perdu l'été. C'est vrai que le président en vacances à Brégançon,
c'est un peu clair-obscur.
On va perdre encore un peu de temps. Et puis, il va y avoir à un moment donné, comme l'a dit aussi Étienne, le plus petit dénominateur commun ou. la moins mauvaise solution, plus exactement. Mais est-ce que cette moins mauvaise solution aura de véritables noms, la solution? Là, on peut vraiment avoir un doute. Et être un peu inquiet quand même d'un point de vue de la situation économique et sociale du pays.
De toute façon, Madame Casté a laissé entendre qu'il y aurait la clique Boyard et compagnie ont dit il y aura des ministres LFI. Donc de toute façon,
la durée de vie est déjà donnée
puisque Renaissance, LR et RN voteront motion de censure s'il y a des ministres LFI. Donc goodbye Madame Casté, puisque Madame Casté s'entête elle aussi à dire qu'il y aura des ministres LFI.
Bon, voilà. Écoutez, voyez, les grandes gueules ont lancé la discussion. Laurent Seignan est avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour à tous, merci de m'accueillir.
Mon cher Laurent, je vous donne la parole dans un instant. Ok, comme ça vous pourrez nous dire si effectivement Emmanuel Macron doit respecter le choix des Français. Et le choix des Français, c'est le NFP, Nouveau Front Populaire. À moins que vous ayez d'autres idées, hein. Les rendez-vous du président n'ont pas encore commencé.
Apparemment, c'est dans une... les sondages disent Attal, Bardella.
Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, hein, c'est au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Discussion et débat et prise de parole dans les GG, dans les grandes gueules, à propos des rendez-vous d'Emmanuel Macron qui commence aujourd'hui pour le président de la République à l'Élysée. Première formation à y aller, ça va être d'ici quelques minutes. Ce sera le nouveau Front Populaire. Et cette question, est-ce que tout simplement le président, le chef de l'État doit respecter le choix des Français, Laurent? C'est la question qu'on se pose, et le choix des Français, c'est le nouveau Front Populaire, c'est le NFP. Qu'en dites-vous, Laurent?
Eh bien écoutez, merci encore, je renouvelle mon remerciement de me recevoir. D'abord, on se plaignait depuis quelque temps, effectivement, depuis de nombreuses années maintenant, et moi le premier, j'en étais très attristé, que les Français n'allaient plus voter. Les dernières échéances électorales nous ont montré que finalement, les Français, au pied du mur, diront certains, devant un choix, diront d'autres, eh bien, sont allés massivement s'exprimer, mais très massivement. Et ils ont choisi, délibérément, alors, où ils ont rejeté ouvertement le parti macroniste, le parti Rassemblement National, etc., etc., où ils ont fait véritablement un grand choix, celui de donner une majorité, alors relative, c'est sûr que ça pose problème, mais c'est une majorité, mais ils ont choisi de faire le choix d'une coalition de gauche. Mmh. Mmh. Et le président de la République est en train de nous dire « Ah oui, mais en fait, j'aime pas ce choix, c'est pas le choix qui me plaît ». Mais quand on fait.
Qu'il a pourtant poussé à faire, lui aussi, hein, avec, sa formation,
oui,
avec son ex-majorité.
Pour sauver ses fesses, pas pour le bien de la gauche.
Il est président de la République depuis de nombreuses années. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais proposé cette coalition-là? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a jamais faite? Alors aujourd'hui, les Français ont choisi. Les Français se sont largement exprimés. Pour certains, c'est un bon choix. Pour d'autres, c'est un mauvais choix. Peu importe. C'est la démocratie. S'il y avait eu un gouvernement Rassemblement National, il aurait nommé un Premier ministre Rassemblement National, point barre. Je ne suis pas sûr qu'il aurait autant contesté. Aujourd'hui, il y a ce choix. Vous imaginez dans quelle, la défiance qu'il y a aujourd'hui chez les Français envers la classe politique.
Donc, si jamais, ce que vous êtes en train de dire, Laurent, c'est que si jamais le chef de l'État... essaye de trouver une autre personnalité simplement pour continuer le macronisme. Là, il joue avec le feu, c'est ce que vous dites, quoi, en fait, c'est ça.
Mais la défiance est telle au niveau des Français envers la classe politique que si demain, le président de la République ne validait pas le choix, et encore une fois, c'est le choix des Français. Alors, où on fait un autre système demain, mais en tout cas, pour le moment, c'est celui-ci, c'est les votes. Et si les Français ne voient pas que le président de la République valide leur choix...
Excusez-moi Laurent, mais je sais que sans doute les sondages, c'est comme toujours, hein, ils nous intéressent que quand les sondages. Oui, je sais. J'allais faire la phrase que vous venez de faire. Les sondages ne nous intéressent que quand ils vont dans notre sens. Mais les enquêtes d'opinion montrent que les Français ne veulent absolument pas d'une personnalité issue du NFP. Madame Casté, encore moins. Bon, ça c'est normal, ils la connaissent pas. Donc la notoriété fait que elle n'apparaît pas vraiment dans les puisqu'elle apparaît en 20e position. Enfin. Les Français restent bloqués sur des Gabriel Attal, Bardella, Bertrand, Lagarde, enfin que des,
mais
figures.
Tu sais ce que c'est, ça c'est la prime à la médiatisation, ça,
mais,
en fait.
Christine Lagarde, on la voit pas tous les jours.
Oui, mais
Christine
c'est parce
que
les journalistes la glissent.
Il y a Michel Barnier aussi.
Par ailleurs, Laurent, vous dites oui, mais pourquoi il l'a pas fait avant sa coalition, excusez-moi, depuis 2017, En Marche et compagnie, ça n'est rien d'autre que des gens du Parti Socialiste, des gens de UMP, UDI et LR qui sont venus le retrouver. Donc c'est déjà une coalition. c'est pour ça que là, il est à sec, puisqu'en fait, tous les gens qui pouvaient venir le retrouver sont déjà venus. Il ne peut plus en aller en chercher d'autres. Et en plus, c'est le radeau de la Méduse. Donc, qui va vouloir monter là-dedans? Donc, moi, Laurent, je ne suis pas d'accord avec vous. Il a fait une coalition, c'était la base d'En Marche.
Laurent Bourg, pourquoi vous dites...
excusez-moi, mais oui. Une coalition, ce n'est pas ça. Une coalition, c'est on part d'un projet et on vient donner sa pierre à l'édifice. Très bien. Lui, ce qu'il veut et ce qu'il a toujours fait, c'est une coalition de droite. C'est-à-dire qu'il est allé chercher des gens à gauche. Bon, on dit à gauche, très bien, on va voir. Mais il est allé chercher des gens, soi-disant, à gauche qui ont appliqué son programme de droite. Donc, ça, c'est pas ça aujourd'hui qu'on demandait les Français. Donc, vous me dites, les Français veulent du Bardella, etc. Non, mais attendez, ça, ce sont des sondages. Ce sont des sondages.
Mais les sondages, pourquoi, visiblement, pourquoi c'est dites, plus important que les votes. Hein,
pourquoi vous dites respecter le. Laurent, pourquoi vous dites respecter le choix des Français?
Le premier tour, il était parlant. Attendez, excusez-moi.
Parce que Emmanuel a posé une question à
Laurent. Pas entendu votre question.
Laurent, pourquoi vous dites respecter le choix des Français de manière aussi claire que vous le dites?
Mais attendez. C'est le principe même de notre démocratie. On fait des élections, on vote. Quand il y a un vote, quand dans votre village, vous votez pour le maire d'un village. Vous vous imaginez, vous, que demain, le maire en place vous dise en fait, je ne vais pas laisser ma place parce que le nouveau maire que vous avez choisi ne me plaît pas. Alors vous en choisissez un autre. Mais ça paraît totalement surréaliste.
Et vous, Laurent, comment vous comprenez le résultat des européennes et le résultat du premier tour des législatives? Vous y voyez quoi comme message envoyé par les électeurs français?
Les gens n'ont pas voté.
Alors d'abord, j'y vois un double message. J'y vois le message que je reste un petit peu optimiste et je crois encore à la nature humaine. Pardon, mais je suis totalement opposé au Rassemblement national. Je ne sais pas si parmi vous il y a des adeptes, mais moi en tout cas...
Je vous demande une analyse politique, je ne vous demande pas ce que vous pensez.
Très peur. Je vois que les
électeurs mais vous êtes paradoxal.
Sont... Non, je ne suis pas paradoxal.
Mais si, parce que vous appelez... Vous appelez Emmanuel Macron à respecter le choix des Français.
Oui. Et il respecte.
Mais quand les Français mettent le RN en tête aux Européennes et le RN en tête au premier tour des législatives, alors là, par contre, ça ne va pas comme résultat. C'est-à-dire qu'en fait,
il n'y a pas de choix des Français. Il y a un camembert. Enfin, comment on peut dire choix des Français? Il n'y a pas de majorité.
C'est incroyable. Vous faites du déni de démocratie parce que ça vous emmerde. Je le comprends.
Et il n'y a pas de choix des Français.
Je comprends que ça vous emmerde. Je trouve qu'au contraire, le premier tour, la différence entre le premier tour et le deuxième tour, c'est-à-dire simplement des gens qui ne votent pas, qui d'un seul coup sont allés voter pour dire « mais non, on ne veut pas du Rassemblement national et on en a marre de la politique de Macron et on préfère ce qui nous a été présenté à gauche, même si on sait que c'est un camembert, une union, la carpe et le... »
Non, mais toute l'Assemblée est un camembert, c'est l'intégralité de l'Assemblée.
Moi, je te dis juste que des gens se sont exprimés et qu'il y a une petite majorité qui est sortie, contrairement à tout ce qui avait été prévu, simplement, et je le redis, parce qu'il y a des élections qui n'intéressent pas au même niveau. On sait, par exemple, que l'élection européenne n'est pas une élection qui nous intéresse énormément en tant que Français.
Il y a eu davantage de participation, voilà, il y a un choix clair qui a été exprimé.
Et puis d'un seul coup, on se réveille, les Français se réveillent, parce qu'ils se disent, mais c'est quoi ce cirque? On veut pas de Macron, on veut pas du RN, et donc voilà. Vous êtes toujours en train de
ton raisonnement est quand même
assez pas vrai.
Ton raisonnement est à dessein.
Mais je peux te poser une question au premier tour, d'accord?
Ouais.
Le NFP existait déjà.
Au premier tour, il n'existait pas. Ils se sont réunis après pour faire barrage au RN.
Il existait.
Le NFP, ils l'ont formé avant le premier tour.
Oui, enfin, t'as bien vu quand
même. Donc, est-ce que le NFP était en tête au premier tour des législatives?
Bon, non, voilà. Et alors?
Donc, il s'est retrouvé gagnant, entre guillemets, on va dire entre guillemets, puisque personne n'a la majorité, ni eux, ni Macron, ni RN. Ils se sont retrouvés en tête parce que la Macronie a décidé de faire les castors, que les autres aussi ont dit oui, on est prêt à s'aborder pour faire élire Madame Borne, ce qui est quand même incroyable, des LFI qui s'abordent pour Madame Borne et Madame Borne qui dit merci beaucoup pour 10 minutes après dire vous n'êtes pas des républicains, donc c'est vraiment n'importe quoi. Donc je précise donc simplement, sans donner mon avis, c'est pas est-ce que c'est juste pas juste, mais la réalité, quand j'entends Laurent et tous les gens du NFP dire les Français ont massivement voté, ils veulent NFP, ils veulent NFP, non, ils voulaient, ils ont dit RN aux européennes, ils ont dit RN au premier tour législatif et ensuite, et c'est normal et c'est légitime, il y a les petites tambouilles politiciennes qui sont habituelles, qui ont fait que le choix des Français, on leur a dit non, ça va pas, on fait autre chose.
Qu'est-ce que tu dis?
Ils ont fait autre chose, très bien.
Le résultat de l'élection, c'est le RN est dernier, donc c'est lui qui est premier.
Non, pas du tout. Le résultat, il est là. c'est que l'Assemblée nationale est ingouvernable, que la France est ingouvernable.
Et le résultat, il est là, c'est qu'il y a une majorité que vous devez respecter.
Le résultat de ces magouilles politiciennes... Le résultat de ces magouilles politiciennes font que ni la gauche est gagnante, ni la droite est gagnante, ni Macron est gagnante, et c'est la France qui est perdante.
Et une fois que tu as dit ça, quel choix il faut faire, madame Barbara?
Mon choix, c'est la démission de Macron, je l'ai déjà dit ici depuis bien longtemps. Ça changera des présidentielles anticipées.
Emmanuel, et ensuite on retourne au 32-16, Emmanuel.
Oui, non, Étienne est sincère, mais c'est dans tes rêves, Étienne. Il n'y a pas eu de choix des Français, contrairement à ce que dit Laurent. Et il n'y a pas de légitimité particulière à la nomination de Mme Castex, qui en plus est une inconnue et qui, indifféremment de son cursus d'études, est une incompétente pour être Premier ministre.
Yves, bonjour.
Je ne vois pas de quel droit tu dis ça.
Bonjour, Yves.
C'est même un peu, irrespectueux.
Yves de Gironde. Alors, est-ce que Emmanuel Macron, est-ce que le président de la République doit respecter le choix des Français, c'est-à-dire est-ce que c'est le NFP ou pas?
Alors, personnellement, je suis tout à la fois consterné et de plus en plus en colère. Quand j'entends qu'on nous rabâche les oreilles avec le choix du NFP, c'est le choix des Français. C'est factuellement faux. Ça, ça relève de la pure de la propagande de gauche qui est reprise avec beaucoup de complaisance, je trouve, dans les médias. Le NFP a perdu les élections. Au premier tour, il a été nettement devancé par le RN et il s'est réfugié dans un front abusivement qualifié de républicain pour sauver ses sièges. Donc c'est ce front dit républicain qui doit s'entendre pour créer une coalition. Ils ont la majorité absolue. La seule coalition qui a une majorité, c'est le front républicain. Alors on va dire les deux briques et deux brocs, mais le NFP aussi, c'est deux briques et deux brocs. Je vous rappelle pendant six mois précédant leur accord, les socialistes, les écolos, les communistes n'avaient pas de mots assez durs contre les LFI, mais des mots lourds. Oui. Ils les accusaient de pique-pendre, avec souvent d'ailleurs de façon justifiée. Ce qui a été sous-estimé tout à l'heure, Étienne, là, qui donne des leçons à tout le monde, il disait « Oui, vous avez jamais cru que la gauche pourrait s'unir ». Oui, effectivement, j'étais le premier encore surpris que les socialistes, les communistes et les verts soient capables de se renier au point de tomber dans les bras de LFI.
Mais on a déjà entendu ça en 81, vous savez, hein, rien d'étonnant.
Mais justement, Yves, c'est là où votre raisonnement est intéressant. Parce que c'est ce que je cherche. Alors, c'est compliqué, comme le disait
si
Barbara,
tu sais
d'être, dans la tête
Macron,
du, voilà, d'être dans la tête du président de la République. En plus, il avait reconnu lui-même qu'il avait une pensée complexe. Ah oui, là, on le voit.
Ça, on savait qu'on était trop con.
La stratégie, ce que l'on raconte aussi du côté de l'Élysée, ou ce que l'on fait fuiter auprès des journalistes, l'idée, c'est justement d'arriver à trouver cette personnalité, comme vous le disiez, qui puisse faire imploser le NFP et recréer une espèce de macronisme. C'est pour ça que le nom de Bernard Cazeneuve arrive, parce que finalement, Cazeneuve, admettons, allez, on va sur l'hypothèse Bernard Cazeneuve, il pourrait plaire à une... Alors, ça plaît à Emmanuel,
non,
il a une stature d'homme d'État.
Ce qui me plaît déjà, c'est qu'il a été Premier ministre et voilà. Il n'aura pas les avantages
on va dire. L'idée, c'est, on prend un Bernard Cazeneuve, qui est Macron compatible, même si c'était un peu tendu entre les deux du temps de François Hollande, mais ça peut rallier de nouveau une partie de la droite raisonnable et une partie des socialistes qui se battent finalement et des nôtres. Ça fait imploser LFI. Et même au Rassemblement National, quand se présenteront des projets, on pourrait s'abstenir poliment. Et on se dit, bah, comme ça, on tient un peu jusqu'à un an au moins
Olivier,
pour aller jusqu'à la
d'autant
prochaine.
D'autant plus que Olivier Faure n'est pas tellement apprécié par une partie des socialistes parce qu'il considère qu'il est la marionnette de Mélenchon, ce qui quand même saute aux yeux. En même temps, on a Glucksmann qui lui dit je voudrais bien, mais je peux point.
Rendez-vous en 2027.
Qui fait semblant de se préparer pour 2027, mais enfin bon, bref. À gauche, ce que Cazeneuve pourrait gratter, c'est vraiment pas lourd non plus. C'est quelques personnalités.
Mais ça fait imploser quand même.
Mais tu vois des gens. Alors, LR, qui a déjà quand même été un petit peu ravagé par l'affaire Ciotti, il leur reste pas grand monde. Qui va aller gratter chez LR? Si c'est pour ramasser Bertrand et Pécresse, on le savait déjà qu'ils étaient plus LR. Wauquiez, au contraire, lui, il veut serrer ses rangs. Parce que lui aussi, il a une petite armée à mettre en route pour 2027. Donc, encore une fois, comme tout ce petit monde, en réalité, n'en a rien à faire de gouverner la France. Parce que gouverner, c'est décevoir. Et dans le moment actuel, tu ne vas faire que décevoir. tout ce petit monde se prépare pour 2027. Alors qu'on en espérant même
dans quel état que le président soit 2027, complètement coincé, oui, qu'on ait des élections présidentielles.
Pourquoi attendre 2027
Barbara,
pourquoi attendre 2027 qu'on fasse ça en 2025
Barbara,
c'est
que la droite, soit en train de se préparer pour 2027, que le Rassemblement national ne pense qu'à 2027. Mais excuse-moi, la gauche qui s'est unie là, le NFP, ne pense pas à 2027.
Mélenchon pense qu'à ça.
Puisqu'il propose,
avec Mélenchon,
on ne connaît pas du tout les... C'est pas du tout évident.
Mais il y a toi qui ne sait pas lire les messages de Mélenchon, alors. Hein.
Pour l'instant, il n'y a pas de déclaration, il n'y a personne qui sait.
Mais Mélenchon, il veut même que Castel se casse la gueule.
À partir du moment où ça touche la gauche,
mais non,
vous êtes, on a l'impression que ça vous brûle.
Étienne,
tu crois que ça représente...
C'est toi qui es parano, mon pauvre. C'est juste de l'analyse politique.
Tu t'intéresses trop à la vie politique et depuis toutes ces années dans les GG où tu as croisé les responsables politiques.
Et ben justement,
tu ne peux pas croire toi-même ce que tu dis.
Ils
ne pensent qu'à ça, la
Mélenchon
France insoumise. Ce qu'ils veulent, c'est que l'Assemblée nationale soit ingouvernable.
Mais oui. Ils veulent même que Castel se casse la figure, que tout tombe
sous un an et que sous un an, il n'y ait pas d'autre, même avant, qu'il n'y ait pas d'autre solution qu'on aille à des législatives, à une présidentielle anticipée.
C'est pas gagné parce que rien ne montre.
Attendez, on va terminer.
La moindre chance.
On va terminer avec Jean-Christophe. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour.
Alors, Jean-Christophe vous Commercial, Val d'Oise, oui. Alors, respecter le choix des Français, NFP ou pas, alors?
Je pense qu'il n'y a même pas besoin de beaucoup, entre guillemets, en discuter. Pour moi, c'est tout à fait logique. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord. Ce que je veux dire, à un moment donné, là, on nous dit oui, mais aujourd'hui, il y a des sondages. Le meilleur sondage, ça reste quand même les élections. Oui. Qu'on soit d'accord ou pas, que ce soit une majorité relative, on s'est moins posé la question quand Macron, en 2022, il avait aussi une majorité relative. Je ne vois pas pourquoi on se pose la question quand c'est la gauche.
Oui, on a vu.
100 députés de plus, hein. Attention.
On a vu le résultat, les 49-3 et compagnie, et la dégradation de la démocratie. Et ben là, ça va être encore mieux. Il leur en manque 100. Alors, excusez-moi.
Quand il y a eu des 49-3, on nous a dit ah ben oui, mais c'est démocratique.
Donc ça ira alors.
Ça serait pas démocratique.
C'est bien alors. Je sais pas, ils sont descendus dans la rue hurler au fascisme avec le 49-3, puis maintenant ils vont s'en servir. Non mais c'est bien. Hein, je m'en fiche, je vais vous dire.
À un moment donné, moi je vais être honnête avec vous. Vous dites tout à l'heure, je manque pas de respect. J'écoute vos termes, je suis désolé, je trouve ça, moi ça me choque beaucoup. Je vais vous citer, vous Barbara, mais juste comme exemple, cette clique, ces députés.
Oui, la clique LFI, j'ai aucun problème avec ça, oui. LFI, c'est une clique.
Une incompétente, tout c'est comme ça. Mais
non, j'ai pas dit que Castel était incompétent, c'est pas moi, Emmanuel. C'est Emmanuel.
Oui, oui,
mais la clique LFI, oui, je reconnais.
En même temps, s'il vous plaît.
La gauche qui est sous Mélenchon, sous domination.
Oui, tout à fait.
En attendant, les gens ont-ils voté au deuxième tour et ont mis le NFP en tête?
Mais Jean-Christophe, donc vous appelez au respect du choix des Français. On a fini notre discussion. Alors, c'est simplement la question qu'on a envoyée sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron doit-il respecter le choix des Français? Voyez ce que ça induit. Qu'est-ce que vous en dites? On va regarder ce que vous en avez pensé. C'est un non à 57,1%.
C'est la question. Le président doit-il respecter le choix des Français?
La démocratie s'est exprimée.
Non, mais en mettant Lucie Casté, NFP.
C'est NFP. Donc, non. Donc, vous êtes plutôt pour essayer de trouver une autre personnalité, un autre choix. Allez, dans un instant, suite des GG avec le on s'en fout pas.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Stories, nos 32-16, que ça se passe, les grandes gueules. C'est avec vous, on vous écoute, là, comme le temps où on a parlé politique entre 9h et 10h moins le quart. Et on vous écoutera tout à l'heure à partir de 10h aussi. Concernant les trafics de drogue, on va prendre un autre biais concernant la lutte contre les trafics en drogue. C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de la manière dont la police intervient, la guerre des gangs. On voit Grenoble, les Chirolles, on a vu ce qui s'est passé à Nice. Mais il y a un préfet de police, un ancien préfet de police, Gilles Leclerc, qui disait hier, il y a quand même un angle mort aujourd'hui, c'est regarder tous ceux qui profitent de l'argent de la drogue, mais qui ne sont pas non plus forcément dans le trafic. C'est-à-dire une espèce de complicité passive. Les commerçants qui sont dans ces quartiers, qui sont bien contents de voir arriver aussi de l'argent liquide. Il y a la CAF qui d'un coup se réveille aussi à Grenoble, qui dit on va croiser peut-être les fichiers aussi pour voir les familles qui profitent de l'argent de la drogue et qui en même temps touchent les allocations familiales. Donc venez en discuter avec nous tout à l'heure au 32-16 à partir de 10h. 10h moins le quart, c'est l'heure d'accueillir Louis Gerbier, LG.
RMC les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Ah oui, ça fait classe. LG from Châteauroux.
Yeah, from Châteauroux.
DJ LG.
C'est mieux que BP from Vierzon.
BP pour reprendre de l'essence.
Bip.
En parlant d'Amérique, Châteauroux était ville américaine. Il y avait la base américaine pendant des années. Dans l'autre sens, Châteauroux et Orléans.
Et il y a eu beaucoup de musiciens de jazz.
Oui.
Alors on y va, mon cher Louis.
On a tous nos marottes. Il parle de jazz, il parle de Châteauroux, il parle d'animaux. Sébastien Delogu, le député des Bouches-du-Rhône, a demandé la mise en place d'un imam d'intérim pour permettre aux fidèles de continuer à prier. Vous savez, au sein de la mosquée des Bleuets, la mosquée menacée de fermeture pour des propos légitimant la violence qui serait tenue depuis des années. On va écouter le
oui.
député.
Écoutons-le.
Là, aujourd'hui, c'est une punition collective. C'est-à-dire que vous pouvez plus aujourd'hui prier tranquillement parce qu'une personne a fauté. En attendant, on ne peut pas vous fermer un lieu de culte. S'il y a un problème avec un imam, on enlève l'imam et on met quelqu'un d'autre. Quand vous avez un prêtre qui a des problèmes, qui est visé par la justice pour pédophilie, puisque c'est des exemples qui sont les plus fréquents dans l'église, bon, ben, on ne ferme pas l'église.
Alors, on s'en fout pas, Barbara Lefebvre.
On ferme pas l'église et on condamne pas le prêtre. C'est ça qui est mieux.
On s'en fout pas, non, on s'en fout.
Étienne Liebig.
Non, on s'en fout pas.
Emmanuel.
On s'en fout.
Barbara, dis-nous pourquoi tu t'en fous pas.
Non, en dehors de la comparaison finale qui est à la hauteur de Monsieur Delogu, bon. Il y a la justice quand elle est poursuivie, il y a des instances. Alors, on sait à quel point les instances ecclésiastiques n'ont pas été à la hauteur, mais enfin. Comparer ça avec... en plus, ça n'a rien à voir. Il y a un aspect de criminalité, l'autre, c'est de la...
Il y en a un où il y a du prosélytisme et l'autre, il n'y en a pas.
Par contre, je ne savais pas, donc, un député, son travail, c'était de faire de l'intérim, de chercher le adéco des imams. C'est nouveau travail de Delogu. Manpower, c'est le cas de le dire. Oui, c'est vraiment le cas de le dire, lui, c'est vraiment manpower. Monsieur Delogu n'a pas bien compris que l'association de la mosquée avait un rôle dans la nomination de l'imam et dans le soutien qu'elle apportait à cet imam. Donc aujourd'hui, si la mosquée est menacée de fermeture, c'est parce que le préfet estime que l'association qui gère la mosquée n'est pas à la hauteur d'une gestion claire des principes et des lois de la République. Donc M. Delogu fait comme si c'était, il n'y avait que l'imam qui posait problème. Non, l'imam, il est soutenu par la direction. Donc c'est toute l'association qui doit changer. Et M. Delogu ferait mieux de s'occuper d'autre chose à Marseille que de s'occuper de la gestion de la mosquée des Bleuets et de savoir, à moins que lui ait des critères de nomination d'imam, sans doute doit-il mieux connaître ce monde-là que nous.
Moi, je crois effectivement que c'est assez important de... Mais tout ça intervient trop tard, c'est-à-dire que c'était dans les années 90 qu'il fallait intervenir dans les mosquées quand on a laissé... des mecs complètement délirants tenir des propos dans quelques mosquées et qu'on n'est pas intervenu parce que en France on n'intervient pas l'État n'intervient pas dans les histoires de religion. C'est pour ça que la comparaison avec la pédophilie dans l'Église est pas mal, parce qu'en réalité c'est exactement la même chose, au sens où l'État ne se sentait pas d'intervenir dans les histoires de l'Église. C'était interne, d'ailleurs très peu ont été condamnés, beaucoup ont été dans des monastères. Il y a quand même 350 000 enfants qui ont été victimes. Très peu ont été condamnés.
Dans les deux cas, l'État ne peut pas se dédouaner parce que ça enfreint la loi de la République.
Tu sais bien que la laïcité à la française, c'est aussi cette espèce de séparation. Et moi, je vais te dire, beaucoup de gens ont dénoncé très tôt, notamment sur des quartiers, des éducateurs ont dit ce qui se passe dans cette mosquée au niveau des propos qui sont tenus, c'est n'importe quoi. C'était dans les années 90 et ça n'a pas été suivi d'effet. Et d'un seul coup, tout le monde s'est réveillé. Mais à mon avis, c'était un peu tard. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Et c'est très bien qu'il y ait le contrôle de ces paroles, parce qu'un lieu de culte, c'est pas un lieu ni dans lequel il doit y avoir de la pédophilie, ni dans lequel il doit y avoir des propos qui sont tenus, qui sont anti-républicains. Donc il faut que ça aille jusqu'au bout. Effectivement, c'est important.
Louis.
Allez, on enchaîne avec la SNCF. Une jeune fille reçoit une amende de 140 euros pour non-présentation de sa pièce d'identité physique. Elle possède un passerail. Vous savez, le passerail, c'est la petite merveille d'Emmanuel Macron. Vous savez, 49 euros par mois pour les jeunes pour pouvoir voyager de manière illimitée dans les trains.
Sauf les TGV.
Sauf les TGV, sauf celui aux heures de pointe, sauf ce... Bref, mais bon, on peut quand même arriver à voyager pour 49 euros
mais
par mois.
Mais il faut montrer sa carte d'identité.
Il faut montrer sa carte d'identité. Donc son père, qui est un confrère journaliste, Alain, a tweeté un PV à une ado de 17 ans avec un passe-rail, sous prétexte qu'elle n'a pas sa carte d'identité, alors qu'elle a la version numérique. Pas de problème au contrôle à l'aller. En revanche, au contrôle retour, elle a pris 140 euros d'amende. On s'en fout pas, Barbara
On s'en fout. Pour
Emmanuel.
On va pas vexer le professeur Gerbier, on va pas s'en foutre.
Et tu as le droit. Hein.
Ah non, on s'en fout pas.
On s'en fout pas. Et alors, le buzz va sûrement permettre l'annulation de cette amende. Mais vous vous souvenez peut-être, au mois de juin, il y avait déjà eu ce cas qui avait amené la SNCF à autoriser l'application France Identité. Vous connaissez l'application. Donc désormais, l'application, c'est possible. En revanche, une photocopie de votre carte d'identité, ce n'est toujours pas possible.
Ça n'a jamais été paqué.
Voilà.
Il faudrait quand même que les... Il faudrait que les agents aient une capacité d'appréciation de bon sens.
Et de distinction.
Si t'es noir ou si t'es blanc.
Ce qui compte, c'est la bonne foi.
si t'es un arabe, tu prends la main.
Une jeune fille de journaliste,
moi j'estime.
Ne caricature pas. C'est extraordinaire d'ailleurs, parce que les communistes maintenant sont devenus les BCBG du Nouveau Front Populaire d'Étienne. Non, il faut que l'agent apprécie sous l'angle de la bonne foi, et là il y a évidemment une bévue. Comme toujours, la SNCF s'est montrée fort avec les faibles et trop souvent faible avec les forts. Les vrais resquilleurs.
Étienne ?
Bon, écoute, c'est absurde, que ce soit pour cette jeune fille ou tant d'autres. En plus, je veux dire que je trouve, pour avoir tellement critiqué les contrôleurs SNCF, je trouve que depuis quelques années, grâce à des formations et qui sont quand même importantes, les contrôleurs ne sont plus du tout agressifs, ils sont plutôt sympas.
Oui, oui.
Donc je trouve que ça se passe plutôt très bien, même quand tu as des gens très réticents, et j'en ai vu, ils restent polis, ils restent corrects, et parfois ils ont de l'humour. C'est assez sympa. D'ailleurs, la SNCF, à ce niveau-là, a fait beaucoup de progrès.
On sent qu'il y a eu du boulot.
Il y a un gros boulot qui a été fait. Donc là, c'est une bévue. On est tombé sur un mec, un excès de zèle. Voilà, faut pas en faire tout un plat.
Mais il va falloir que tout le monde s'habitue à la carte d'identité numérique aussi, parce que c'est ce qui va arriver.
Mais je conseille à tout le monde France Identité. Ça prend quoi, 3 minutes? Si vous avez vos documents, vous le faites. Et puis maintenant, c'est autorisé partout.
Alors que la photocopie de carte d'identité n'a jamais été.
Quand tu fais voler ton téléphone, t'as les papiers avec. Quoi.
Oui. Oui,
quand on voyage, une règle de vieux voyageur.
À moins que tu te le fasses voler.
Toujours avoir un double,
sosie. Oui,
un double de son passeport dans sa valise.
Moi, j'avais pas confiance.
C'est ça aussi. On y va. On termine.
Allez, on termine avec Kamala Harris, investie par le Parti démocrate pour l'élection américaine. On s'en fout pas, Emmanuel?
Ah, certainement pas. On s'en fout pas.
Barbara?
Ah non, on s'en fout pas.
Non, on s'en fout pas.
Étienne, on ne s'en fout pas. Alors, une femme noire d'origine jamaïcaine et indienne face à un homme blanc milliardaire, c'est un peu la manière simpliste dont certains présentent ce duel, mais c'est surtout deux visions de l'Amérique complètement aux antipodes, Emmanuel.
Il y a un vrai sachant, un vrai professionnel, qui est un homme qui a réussi, qui est sérieux, qui est courageux, qui est en phase avec l'Amérique profonde, c'est Donald Trump, et puis en face, il y a un produit marketing Hollywood Chewing Gum, avec un bilan catastrophique. Et
bilan catastrophique en tant que procureur
En tant que vice-présidente, parce qu'elle endosse entièrement l'échec cuisant de Biden, hein, derrière les flonflons et les sunlight. Et je crois que le président Trump pourra lui renouveler la fameuse phrase de Mitterrand à Giscard: c'est vraiment dommage qu'entre-temps vous soyez la femme du passif.
Ah, tiens. Non, c'est important, parce qu'en plus, alors elle a pris un vice-président qui correspond à l'image du vieux mec du sud complètement. Donc en fait, à tous les deux, ils forment un attelage qui, à mon avis, peut aller loin. Je trouve qu'elle a pas été à la hauteur quand elle était vice-présidente, parce qu'elle a été, à mon avis, écrasée par le système. Parce que là, on voit qu'elle existe, qu'elle a une pensée, qu'elle a une façon de...
Ah bon?
Donc, d'une résurrection depuis...
Oui, une pensée, oui.
T'as écouté son discours?
Oui, écoute, franchement, si tu trouves une pensée trumpienne intelligente
la paix en Ukraine, c'est peut-être pas mal quand même.
Mais la paix en
Ukraine. Trump va imposer la paix en Ukraine. Mais
Trump, il fait pas partie des BRICS, il fait pas partie de ce groupe russe, chinois, ils en ont rien à foutre de Trump.
Non, je crois pas qu'il en ait rien à foutre.
Tout de suite, le plan de paix est prêt.
tout de suite avec les grandes gueules.
Démocratie soit
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.